Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
Martino. Le choix des connaisseurs.
Est-ce qu'on devrait être plus sévère envers le régime des mollahs en Iran? Nous allons parler avec Guy Saint-Jacques. J'aime beaucoup parler à M. Saint-Jacques, qui est un ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonjour, Guy Saint-Jacques.
Bonjour, M. Martineau.
Alors, vous étiez, c'est ça, ambassadeur du Canada en Chine, un pays avec un régime tyrannique. Vous avez souvent dit que le Canada est beaucoup trop complaisant avec les régimes tyranniques, les dictatures et tout ça. Bon, là, le Canada vient de critiquer, de pourfendre les responsables de la mort de cette jeune iranienne de 22 ans. C'est un début, ça va peut-être pas assez loin, mais bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça, là, de le Canada qui se réveille et qui soudainement pointe l'Iran du doigt?
Bien, en fait, c'est ça. Si on dit que, pour nous, les valeurs démocratiques, les droits de la personne, ce sont des valeurs fondamentales, il faut que ça se traduise par des gestes concrets dans notre politique étrangère, particulièrement dans les relations avec les pays autoritaires. Puis si on regarde la situation dans le monde, en fait, c'est inquiétant parce que la démocratie perd du terrain. Puis oui. Il y a des pays comme la Chine qui font la promotion active d'un régime autoritaire. On sait que la Chine appuie la Russie, mais elle appuie aussi l'Iran. Elle a augmenté beaucoup ses... Elle fait ça pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons économiques, parce qu'elle elle importe beaucoup de pétrole de l'Iran. C'est que donc, le défi, c'est comment promouvoir la démocratie, comment appuyer les opposants au régime. Puis le cas de l'Iran est intéressant parce que comme vous le savez sans doute, en 2009, il y a eu des élections puis en Iran, puis les élections ont été volées parce que c'était le chef de l'opposition qui avait gagné les élections, puis
ah oui.
le régime des moulas a décidé d'intervenir. Ça avait donné lieu à des manifestations où il y avait eu plusieurs centaines de morts. Puis dans ça, le rôle des États-Unis est crucial. Puis à l'époque, c'était M. Obama qui était président. Puis il avait décidé de ne pas appuyer ouvertement les manifestants parce qu'il craignait que ça se retournerait contre eux. Or, maintenant, M. Biden est venu à la conclusion contraire que quand il y a des manifestations comme ça, il faut essayer de trouver les moyens d'appuyer les manifestants pour promouvoir concrètement ces idées-là de démocratie.
Mais pourtant, là, je me souviens, là, lorsque dans les années 80, lorsque l'Occident faisait pression auprès de l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud mette fin à son régime d'apartheid, il y avait des artistes qui faisaient des spectacles contre le régime d'apartheid. Il y avait Brian Mulroney, hein, on était proactif oui. au Canada. M. Mulroney appelait M. Reagan, appelait Mme Thatcher, leur disait, écoutez, il faut que vous embarquiez dans ce train-là, il faut vraiment faire pression auprès du régime sud-africain. On est beaucoup plus frileux maintenant.
Oui, et puis c'est ça, c'est un bon exemple. Puis ça démontre quand quelqu'un se fait le champion d'une cause, puis là-dessus, il faut donner beaucoup de crédit à M. Mulroney, parce que effectivement, il est en conflit avec Mme Thatcher, puis avec M. Reagan, mais il s'entendait bien avec Reagan. C'est qu'il était capable d'avoir des conversations franches. Puis il fallait mener ça à terme. Là, maintenant, c'est ça. Ce qu'on n'avait pas prévu aussi, c'est que les pays autoritaires, les régimes autoritaires allaient profiter des avancées technologiques pour s'en servir pour mieux contrôler leur population. Puis si je fais un parallèle entre la Chine et l'Iran, la Chine a investi beaucoup dans la technologie pour contrôler les médias sociaux. L'Iran n'a pas réussi à aller aussi loin encore, même s'ils reçoivent l'aide de la Chine pour mettre en place les technologies puis essayer de contrôler. Puis la solution en Iran, ça a été d'essayer de fermer l'Internet, mais ça, ils n'ont pas réussi complètement. Puis, dans le cas de la Chine, elle contrôle ce qui se dit sur les médias sociaux, puis elle a mis en place des lois qui fait que si quiconque s'oppose à des politiques du gouvernement, ben ils se font arrêter. Puis il y a un régime extrajudiciaire, puis ça existe aussi en Iran, où on peut détenir quelqu'un sans l'accuser formellement. Puis bien sûr, ces personnes-là sont souvent soumises à la torture. Donc c'est un système extrajudiciaire. Tout ça est très inquiétant là, quand on voit comment les régimes autoritaires, ce qu'ils font pour survivre, parce que c'est une question toujours de survie, puis de pour faire ça, ben il faut contrôler l'information, il faut avoir un système policier répressif très actif, puis c'est ça qu'il faut essayer de
Monsieur Saint-Jean, est-ce que l'Occident n'est pas un peu victime du succès de la mondialisation, c'est-à-dire que nos économies maintenant sont de plus en plus imbriquées, dépendantes les unes des autres, c'est très difficile de critiquer un pays dont on a besoin d'argent, par exemple.
Oui, mais il y a des façons de faire ça. Puis bon, ça fait longtemps, je le dis. Par exemple, dans le cas de la Chine, qui est devenue le partenaire commercial numéro un ou numéro deux de la plupart des pays du monde, le Canada par lui-même est trop petit pour faire des avancées. Mais si on se met avec les autres pays occidentaux, puis à chaque fois que la Chine utilise le commerce, par exemple, à des fins de représailles, il faut loger des plaintes à l'Organisation mondiale du commerce, puis il faut surtout développer des stratégies communes. Parce que le seul langage que la Chine comprend, c'est la fermeté, puis surtout, c'est un message commun qui dit à la Chine, c'est fini le temps où vous nous divisiez pour régner. Là, on va les forcer, j'espère, à respecter les lois, parce qu'il faut dire que la Chine a profité beaucoup de la mondialisation. Après son entrée à l'Organisation mondiale du commerce, il y a 21 ans, il y a eu une croissance économique fulgurante. Elle n'a pas rempli ses promesses. Puis maintenant, c'est ça, il y a cette dépendance parce que les chaînes d'approvisionnement, ça faisait l'affaire des compagnies d'aller faire des composantes, des produits en Chine. Il faut dire, comme consommateur, on a profité. Il y a eu une baisse des prix des téléviseurs, des téléphones. Mais maintenant aussi, ce qui arrive avec le conflit en Ukraine a démontré ça, c'est que le monde risque de se diviser en deux camps. Là. D'un côté, les pays autoritaires, ce que j'appelle les récalcitrants, comme la Chine, la Russie, l'Iran. D'ailleurs, il y a eu, il y a deux semaines, à Samarkand, en Ouzbékistan, la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai qui a été créée par les Chinois, qui est une sorte d'alliance. Là, très autoritaire, qui essaient d'exporter leur modèle, qui essaient de changer les normes aussi dans les organisations internationales pour que ça soit plus ajusté à leur idéologie. Et de l'autre côté, ben il y a le camp occidental, puis le leader, bien sûr, c'est les États-Unis, mais on a vu avec les 4 années de Trump, comment lui ne croyait pas au système multilatéral, puis ça l'a miné la crédibilité des États-Unis, de leur système démocratique. Ça a créé une fragilité qui a été exploitée. Mais ce que ça risque d'amener, là, ces deux camps-là, c'est qu'on va avoir deux camps, mais on va avoir aussi beaucoup d'autres pays qui vont vouloir rester neutres parce qu'ils ne voudront pas aller d'un bord ou de l'autre. Mais ça implique pour les compagnies qu'il va falloir revoir les chaînes d'approvisionnement pour voir jusqu'à quel point elles peuvent devenir vulnérables. Il y a beaucoup de pays puis de grands fonds d'investissement qui ont perdu beaucoup d'argent en Russie suite aux sanctions qui ont été imposées. Si jamais la Chine devait attaquer Taïwan, il y aurait beaucoup de compagnies qui risqueraient de se retrouver dans une situation très difficile.
Je vous entendais parler, j'avais dans la tête une image de film de super-héros là, où les méchants se réunissent, forment une coalition, entre autres. Est-ce qu'on va se ramasser justement avec un bloc qui va être la Russie, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, etc.?
Ben, si on regarde la tendance au cours des dernières années, c'est ce qui est en train de se produire parce que sur le plan idéologique, d'une part, ces pays-là, à nouveau, des régimes autoritaires vont tout faire ce qui est nécessaire pour leur survie. Puis c'est clair pour le président chinois Xi Jinping, la survie du Parti communiste chinois, c'est son objectif numéro un. ils ont bien vu ce qui est arrivé lors de la chute de l'Union soviétique. Pour eux, ça a été une tragédie. Puis c'est pour ça aussi qu'ils veulent éviter que Poutine tombe, parce que là, ça serait un allié important qui risquerait d'être moins solide pour eux. Mais c'est ça, il faut faire attention à ça, parce que puis aussi, ces pays-là pensent que les États-Unis, c'est une puissance en déclin. Et donc, ils se disent, ça va être à notre tour de mener le monde, et puis on est sur la bonne voie.
Et c'est bon, c'est intéressant ce que vous disiez tantôt, c'est-à-dire ces pays-là voient la gentillesse, la politesse, le compromis, les accommodements, la diplomatie comme des signes de faiblesse.
Oui, oui. Et puis, moi, j'ai déploré ça dans les relations avec la Chine. Puis en fait, ça a été tous les pays occidentaux là, qui ont cru que l'accession de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce allait nécessairement amener une libéralisation sur le plan politique. Ce que les gens n'avaient pas prévu, les leaders n'avaient pas prévu, comme je disais tantôt, c'est que ce régime-là profiterait des avancées technologiques pour augmenter les contrôles sur leur population, éliminer toute opposition. Et puis aussi, dans le cas de la Chine, ils ont érigé la grande muraille de feu pour empêcher l'information venant d'étrangers d'entrer en Chine. Et puis aussi pour contrôler leur information. Si vous parlez à des jeunes Chinois puis vous leur demandez qu'est-ce qui s'est passé à Pékin le 4 juin 1989, ils n'ont aucune idée qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont été massacrées. Fait que tout ça pour dire qu'il faut réviser notre approche dans les organisations multilatérales, être moins naïf, puis reconnaître que ces régimes-là, en Iran, en Russie, en Chine, ce sont des régimes qui menacent nos valeurs, et que si on réagit tout pas, à un moment donné, il va falloir lever le drapeau blanc.
Tout à fait, tout à fait. Si eux autres avancent, eux autres, on recule. C'est rien que ça. Oui. Et il faut dénoncer les régimes d'apartheid. Et puis, je m'excuse, mais ce qui se passe en Iran, c'est un régime d'apartheid, mais c'est pas les Noirs qui sont considérés comme des citoyens de second ordre. Ce sont les femmes. Mais c'est le même genre de régime. Toujours un plaisir de vous parler, M. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Bonne journée, merci.
Merci, bonne journée aussi.
Merci.